Le 9 mai 97, deuxième coup.
Je vous signale simplement que la conférence de cet après-midi sera à 15h au lieu de 15h30, hein, parce qu'il y a des horaires de train. Donc vous aurez du coup le carrefour, hein, pour ceux qui participent au petit groupe de réponse aux questions après la conférence de cet après-midi. Et puis le père Philippe vous rejoindra pour la conférence de ce soir. Alors je suis resté tout à l'heure sur ce texte, hein, d'Aristote que je vous lis à titre d'exemple, si vous voulez, pour nous aider. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est uniquement à faire une lecture historique d'un texte d'Aristote quand on est en métaphysique. Mais je trouve intéressant parce que comme il est le premier, il met en lumière les choses de manière très, très visible, si vous voulez. Hein. C'est par exemple très intéressant de bien voir qu'il y a un lien particulier entre la philosophie première, qui doit nous conduire jusqu'à la sagesse, et la recherche de la finalité. Donc ça, c'est... Je vais y revenir tout à l'heure. Le lien entre la philosophie première et la finalité qui lui permet d'être pleinement sagesse. Donc après avoir terminé ce texte, hein, j'ai encore un passage à vous lire. Je vais revenir sur ce point parce que c'est extrêmement important. Pour qu'on voit ainsi la structure de la philosophie et la place que la philosophie première y occupe. Alors, le passage que je vais vous lire maintenant, il est toujours dans ce même chapitre. Hein, et la référence est 982, B28 et suivante. Donc, vous voyez, la question d'Aristote ici, c'est de montrer comment la philosophie première est sagesse et qu'est-ce que c'est que la sagesse. Et puis on va voir, ça va être notre recherche tout à l'heure, que cette philosophie première qui devient sagesse, qui est ainsi connaissance des causes ultimes, hein, premières dans un ordre de perfection, qui est connaissance des choses divines. On va voir dans ce texte que je vais vous lire dans un instant que Aristote montre que c'est par la sagesse qu'il y a quelque chose de divin dans notre intelligence. J'essaie d'expliquer ce que ça veut dire parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les Grecs. C'est le divin, non pas au sens chrétien bien sûr, non pas au sens du mystère de la grâce, au sens où notre intelligence a quelque chose qui l'apparente à Dieu, au niveau naturel, ce qui est une chose très importante à bien voir. Donc cette philosophie première qui devient sagesse, connaissance des causes ultimes, de la cause ultime de toute chose, découverte, hein, connaissance des choses divines, qui donc ultimement devient théologie, hein, contemplation, théoria. Elle va appliquer fondamentalement une structure qui va faire d'elle en même temps une science. Alors, oui, faites attention au terme science tel qu'il est employé par Aristote. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le mot science, on a tout de suite derrière la tête les sciences exactes, hein, les sciences contemporaines. Il ne faut pas oublier que pour les Grecs, la philosophie est une science, c'est-à-dire elle connaît, elle cherche à connaître, c'est la connaissance de quelque chose de nécessaire. Qu'est-ce que c'est que le nécessaire en philosophie? Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Et on le définit négativement. Il y a des choses contingentes et il y a des choses nécessaires. Bon. Les choses contingentes, oui, c'est des choses... Par exemple, il pleut, c'est contingent. Par contre, dans votre vie, qu'est-ce qui est quelque chose de nécessaire? Qu'est-ce qui impose une certaine nécessité? Ce sans quoi vous n'êtes pas pleinement homme. Oui, le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Ce qui est nécessaire en vous, ce qui s'impose. Il y a quelque chose qui est fondamental qui s'impose, c'est votre nature humaine. Ce que vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas devenir vache, même si vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être rêver d'un clonage, mais oui, c'est des mythes, ça. Et, hein, c'est connaissance, quelque chose de nécessaire. Il y a une certaine nécessité, c'est qu'on est une personne humaine. Ensuite, connaissance du nécessaire, votre finalité, ça s'impose. Au sens où c'est ce sans quoi vous n'êtes pas pleinement homme. Vous voyez ce que dit Aristote avec beaucoup de force, c'est très extraordinaire, il a l'audace de dire, hein, un homme qui n'est pas finalisé n'est pas pleinement homme. Il dit ça dans l'éthique à Nicomaque, hein, que c'est la fin, la finalité, le bien découvert comme fin, qui est source de nécessité pour notre activité humaine. Donc toutes les actions que vous posez, qui ne sont pas accomplies en vue d'un bien et du bien le meilleur qui peut donner naissance à votre vie, toutes ces actions ne sont pas pleinement humaines. Elles sont contingentes, accidentelles. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, oui. Ce que saint Thomas dit toujours, hein, le fricare barbam, c'est l'exemple que donne toujours saint Thomas. Hein. Il y a des gestes qu'on fait instinctivement, oui. Fricare barbam, on se frotte la barbe, hein. C'est pas précisément finalisé. Et un tic n'est pas précisément finalisé. Je viens un tic, hein, pas une tic, l'insecte, un tic. Parce qu'une tic est finalisée par le fait de venir vous pomper votre sang. C'est sa finalité. Donc elle attend le moment, et elle peut attendre des années, perchée sur sa branche, hein, que vous passiez en dessous, et elle se laisse tomber, et toc, et elle trouve sa finalité. C'est très étonnant, oui. Bon, un tic de langage, un tic, vous voyez, hein, il y a des tics, bon, c'est pas finalisé. C'est un geste, comme dit saint Thomas, de l'homme. Ce n'est pas humain. Tandis que ce qui est humain au point de vue éthique, c'est ce qui est finalisé. Donc vous voyez, la science cherche le nécessaire et pour cela va chercher à connaître les principes propres, les causes propres, sources de nécessité dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier, source d'un ordre dans la réalité ? Qu'est-ce qui est nécessaire dans votre être ? Je dis « ceci est », c'est le jugement d'existence. Mais le « ceci est », il implique des quantités de choses contingentes. Qu'est-ce qui est premier dans votre être ? Qu'est-ce qui est source fondamentale de ce que vous êtes dans l'ordre de l'être ? Et qu'est-ce qui est cause ultime de votre être ? Bon, on va y revenir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'analyse scientifique qui repose sur la découverte inductive des principes et des causes propres de la réalité. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on découvre ça. C'est essentiel parce que c'est ça qui nous forme en philosophie. Pour commencer, il faut bien voir que tout cet effort qu'on fait, et qui est rude, qui est un labeur philosophique, il est finalisé, commandé par le fait que nous cherchons une sagesse. Et la sagesse, va dire Aristote, et c'est très éclairant par rapport à la philosophie hégélienne qu'on a lue hier, la sagesse n'est pas quelque chose que l'homme possède par lui-même, par nature, au sens de comme si c'était ce qu'il est. Et je ne suis pas substantiellement ma pensée. On retrouve philosophie de l'être, philosophie de l'esprit. Je ne suis pas une substance pensante. Ma pensée n'est pas substantielle. Je ne possède donc pas la sagesse par nature. Je dois la découvrir, l'acquérir, et elle peut me finaliser. Mais elle n'est pas quelque chose que je possède d'une manière fondamentale. Et là, on a vraiment l'abîme fondamental entre Platon et Aristote. Pour Platon, nous sommes naturellement contemplatifs. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Vous êtes un contemplatif. Mais si, mais si. Parce que vous avez été une âme séparée qui a résidé dans le ciel des idées. Et vous avez contemplé le monde divin. Et puis, vous vous êtes enorgueilli. Du coup, vous êtes tombé sur la terre. Vous avez été uni à un corps qui est une punition. Vous voyez, le mystère de l'ascension. Mais qu'est-ce que le platonicien dirait de l'ascension ? Enfin, je me libère de ce corps et je vole. Vous voyez, je retrouve ma nature. Platon, c'est ça. Pour Platon, la mort est une libération. Il dit ça dans le Phédon. Parce que le corps est un poids, le corps est une entrave qui empêche notre âme contemplative de vivre sa vie propre, elle possède la contemplation par soi. C'est ce que montrent tous les grands dialogues de maturité de Platon, le Phédon, le Phèdre, le Banquet, la République, on voit ça dans tous les dialogues de Platon. Pour Aristote, je ne possède pas la contemplation, je ne suis pas naturellement contemplatif, je dois découvrir la sagesse et c'est de l'ordre d'une finalité. Ce n'est pas retrouver un fondement perdu. Vous voyez, là, on trouve une distinction extrêmement importante et qui est très éclairante pour le monde d'aujourd'hui. Quelle différence faites-vous entre un fondement et une finalité ? Pour Platon, trouver la contemplation, c'est retrouver le fondement perdu. Je dois éliminer les choses qui se sont ajoutées, c'est le corps, le sensible, tout cela doit être éliminé. Donc, la mort, c'est une libération. Platon, philosophie de la libération. Je me libère de mon corps pour retrouver ce que j'ai perdu. Aristote dit, mais ça c'est un mythe. Je n'ai pas du tout possédé la contemplation avant d'être uni à un corps. Je ne suis pas une âme contemplative par nature. Il est naturel à l'homme d'avoir un corps. Je dois donc, moi qui commence par une vie végétative et une vie sensible, conquérir la sagesse et la découvrir, et elle me finalise. Et là, il y a un point de contact entre l'homme et Dieu, c'est par la finalité, c'est par la sagesse. Pour Aristote donc, la mort n'est pas une libération, elle est un mal pour l'homme. Ça c'est très important. pour Aristote, il y a une union substantielle entre l'âme et le corps. Le corps fait substantiellement partie de la personne. Il est donc naturel à l'homme, tout en étant fait pour la sagesse dans sa finalité, de commencer par une connaissance sensible et de conquérir la sagesse. C'est pour ça que pour Aristote, nous devenons progressivement sages. Nous ne cherchons pas à retrouver quelque chose de perdu. Nous nous finalisons, et c'est bon et c'est vrai pour chaque personne humaine. Tandis que pour Platon, c'est réservé à certains, qui ont le privilège d'avoir un corps d'or, tandis que ceux qui ont un corps d'argent ou de bronze ou de fer ou de terre, ceux-là, c'est les pauvres types qui ne sont bons qu'à fourbir les choses pour les autres. Pour Aristote, tout homme est fait pour la sagesse. Il dit ça au début de la métaphysique, c'est la première phrase de la métaphysique. Tous les hommes désirent par nature connaître. C'est la première phrase de la métaphysique. Et je suis sûr que Platon aurait lu cette phrase, il serait retourné dans sa tombe. Parce que, pour Platon, le philosophe, il n'y en a qu'un qui peut être philosophe, c'est celui qui a la nature philosophique. Parce qu'il a la chance que son âme soit tombée dans un corps d'or. Donc il n'est pas trop appesanti. Et s'il a reçu une éducation appropriée, qui ont coupé les masses de plomb qui l'empêchent de voler, c'est comme ça l'image que donne Platon dans la République. Le philosophe, il a un corps, et donc c'est comme un oiseau qui a les ailes avec des masses de plomb au bout. Il n'arrive pas à s'envoler. Alors l'éducation, c'est quoi? Couper les masses de plomb pour qu'il puisse reprendre son vol. Et on voit très bien l'image. C'est... Alors que pour Aristote, je dois découvrir la finalité. Oui, c'est... La contemplation n'est pas un idéal perdu. Elle n'est pas un fondement perdu que je vois comme un idéal à retrouver. Elle est une fin, donc la découverte d'un bien existant qui me finalise. C'est une personne. Et tandis que pour Platon, la contemplation est un idéal. C'est une cause exemplaire. Et c'est très intéressant de saisir ça. La différence entre la fin, le bien découvert comme fin, et la cause exemplaire, l'idéal. Et nous ne vivons pas d'un idéal en philosophie. Nous vivons d'une réalité. Et c'est pour ça que j'ai bien dit ce matin, l'intelligence est faite pour ce qui est. C'est pour ça que quand il s'agit de découvrir l'existence, quand il s'agit de découvrir Dieu en philosophie, pour Aristote, le seul chemin possible, c'est une métaphysique de l'être. Dieu est une réalité qu'on découvre comme l'être premier, celui qu'on appelle Dieu. Ce n'est pas le bien en soi. C'est très intéressant de bien voir ça. Alors, voici ce qu'Aristote va dire sur la sagesse. Vous voyez, le lien, ici je le touche parce que c'est le lien entre l'homme et Dieu par rapport à la sagesse. Donc c'est à juste titre que l'on peut estimer que la possession de la sagesse n'est pas humaine. De tant de manières, en effet, la nature des hommes est esclave que selon Simonide, Dieu seul peut avoir ce privilège. Et qu'il n'est pas digne que les hommes ne se bornent pas à rechercher la science qui est la leur par soi. Et on voit très très bien, vous voyez, c'est vrai avec la position d'Aristote, elle est très difficile à tenir. Et Platon semble beaucoup plus séduisant, c'est bien évident. Si vous dites « je cherche la sagesse », on vous répond la plupart du temps spontanément « ah, vous voulez regarder la contemplation ? Mais regardez donc Platon ». Moi, j'ai fait cette expérience encore il y a quelques années, en Sorbonne, avec un professeur à qui je demandais « j'aurais travaillé sur la contemplation en philosophie grecque ». Mais c'est Platon. Je dis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est chez Aristote. Aristote, la contemplation, ça n'existe pas. Ils n'ont jamais lu Aristote pour dire ça. Et c'est vrai que la position d'Aristote est difficile à tenir. Pourquoi ? Parce qu'il dit d'une part, l'homme, dans sa fine pointe, il implique le nous. Le nous séparé, donc qui est fait pour connaître ce qui est, l'esprit. Donc l'esprit est ultimement finalisé par la sagesse, par la contemplation, qui va être la découverte de l'être premier, celui qu'on appelle Dieu. Je vais y revenir, ça, cet après-midi. Mais ce nous séparé, il est la puissance d'une âme qui s'enracine et qui est fondamentalement liée, substantiellement liée, à un corps. Et on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, la détermination et l'exercice. Et c'est très difficile, vous voyez, parce que Aristote tient les deux. D'une part, que l'homme est fait pour la contemplation, dans ce qu'il a d'ultime pour la sagesse, et c'est le rôle de la métaphysique de nous le faire comprendre, d'autre part, que l'intelligence est la puissance d'une âme qui est liée substantiellement à un corps, donc que dans son exercice, elle est liée au sensible, donc que notre connaissance commence par l'expérience. Et l'expérience, c'est l'intelligence liée aux sensations. C'est comme ça qu'Aristote parle de l'expérience. L'expérience est proprement humaine. Un animal ne fait pas d'expérience. Un animal peut avoir une pure sensation qui est ordonnée à son instinct. Je vous ai cité ce texte hier. Le lion ne prend pas plaisir à voir un bœuf. Il ne s'intéresse pas à le regarder, à dire que je vais m'y arrêter, je le contemple. Non. C'est ordonné à l'instinct. Tandis qu'au point de vue de l'homme, l'expérience est proprement humaine. C'est l'intelligence qui se sert des sensations pour atteindre ce qui est. L'expérience est proprement humaine. Donc, il y a entre les sensations et l'expérience, il y a une différence pour Aristote. La sensation, elle est comme en puissance à l'expérience. Pour l'homme, la vie sensible est ordonnée au progrès de son intelligence. Or, la vie sensible, c'est ce qui explique toute la complexité du corps humain. Tout le corps humain a une complexité extraordinaire pour que la vie sensible soit particulièrement affinée, spécialement dans le sens du toucher. Ce que dit Aristote et ce que reprendra saint Thomas, en montrant que si l'homme est moins doué que certains animaux pour certaines sensations, en particulier la vue, etc., l'ouïe, c'est bien évident. Par contre, quant au sens du toucher, il est l'animal le plus affiné. Or, le toucher, c'est le sens du réalisme de l'intelligence. Ceci que je touche est. Et donc, toute la vie sensible de l'homme est ordonnée à l'expérience qui implique la place de l'intelligence. Vous voyez, donc, cette position est difficile à tenir pour Aristote. Comment puis-je dire à la fois que l'homme connaît tout ce qu'il connaît en se servant des sensations et que, ultimement, il est fait pour connaître Dieu qui est au-delà du sensible ? Où je quitte les sensations, vous voyez, mon ous est séparé des sensations et du sensible. Je ne touche pas Dieu, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, je n'ai pas d'expérience de Dieu. Mais il n'y a pas d'expérience de Dieu en philosophie. Ça, c'est très important. Je peux avoir une expérience de mon attitude religieuse, une expérience de la prière, mais je n'ai pas l'expérience de Dieu en philosophie. Quant à la foi, c'est une expérience divine, donc c'est d'un autre ordre. Pour ça, mais Dieu n'est donc pas un point de départ philosophique. On ne commence pas par Dieu en philosophie. Ça, c'est une erreur qu'on appelle l'ontologisme. L'ontologisme qui consiste à dire « Dieu est celui qui est premièrement connu, je connais tout à partir de Dieu ». Non, ça c'est vrai pour le croyant, mais pas pour le philosophe. L'homme n'expérimente pas Dieu directement. Vous n'avez jamais rencontré Dieu au coin de la rue. Dis « Tiens, bonjour Dieu, comment vas-tu aujourd'hui ?» Non, je ne vais pas dire ça. Il n'y a pas d'expérience philosophique de Dieu. Je ne le découvre que médiatement, par l'intermédiaire d'autres réalités. Vous reverrez ça avec le père Philippe, j'espère, à la fin de cette session. Donc, vous voyez, c'est très délicat de dire ça. Comment l'homme, qui s'enracine dans le sensible, dans le monde physique, par son corps, qui commence sa connaissance par les sensations, puis qui présuppose une vie végétative. Vous voyez, c'est pas drôle. La vie végétative, vous voyez, il faut manger 3 fois par jour. Ah bon, je peux essayer de faire des exercices pour ne plus manger que 2 fois ou 1 fois. Mais il y a des limites. Primum vivere deinde philosophare. Il faut d'abord manger. Et pour votre pensée philosophique, pour votre nous séparer, c'est pas drôle du tout d'avoir un estomac qu'il faut traîner, comprenez. Et quand vous avez très très mal à la tête, c'est physiologique. Mais c'est pas commode de faire de la métaphysique. Vous voyez, votre conditionnement sensible. Vous qui êtes un esprit fait pour connaître Dieu ultimement, fait pour la sagesse, vous avez ce poids, ce conditionnement sensible. C'est extraordinaire. Et on comprend Platon. Platon qui dit « Oh, tout ça, ça n'a aucune importance, je fais comme si je n'en tenais pas compte, ça n'existe pas, je le jette, je le barre. J'attends de mourir et je me réfugie. L'homme, c'est son esprit. » C'est ce que dit Platon en 1er Alcibiade. L'homme, c'est l'âme spirituelle, dit Platon. Aristote dit pas du tout. L'homme, c'est l'âme spirituelle unie à un corps. Ah oui? C'est pour ça qu'il dit ça. La nature des hommes, de tant de manières, est esclave qu'on peut être tenté de dire que la sagesse n'est pas faite pour l'homme et que l'homme doit se contenter de rester dans le sensible, dans la description de l'expérience. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'empirisme. L'homme se contente de l'expérience sensible. Il ne peut que décrire ce qui tombe sous ses sens. Ou bien, le positivisme, il ne peut que se contenter des sciences exactes, du mesurable, la quantité. Je ne lui demandais pas plus. C'est tellement difficile que notre intelligence s'élève au-delà du sensible. Et c'est vrai, oui. Votre question tout à l'heure, si souvent on reste dans le poids de l'imaginaire et du sensible, c'est tellement difficile. Et le poids de l'imaginaire, le poids des sensations, le poids de la vie végétative, le poids des passions, ainsi de suite. Et l'affectivité n'est pas commode à ordonner. Alors, c'est pas commode. Et c'est vrai que quelqu'un qui est complètement dans la passion, qui est un vrai cheval emballé, il a un mal fou à dépasser la passion, l'affectivité pour trouver l'intelligence. La passion peut nous rendre complètement bêtes. On est aveugle, on est mené par le bout du nez, par notre affectivité, et on manque complètement d'intelligence. Ça existe. Vous voyez, c'est pas drôle de voir ça. C'est pour ça qu'Aristote dit, mais c'est très bizarre. Comment se fait-il que l'homme qui est fait pour quelque chose de si grand du point de vue spirituel y arrive avec tant de difficultés? C'est comme un homme qui a un bras paralysé, dit Aristote, hein, qui veut mouvoir son bras dans un sens et le bras part dans l'autre sens. Il ne maîtrise plus les choses. C'est si souvent le cas, dit Aristote. C'est vrai, oui. Hein, c'est mystérieux, ça. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il dit cela. C'est à juste titre que l'on peut croire, que l'on peut estimer que la possession de la sagesse n'est pas humaine. Donc, elle est dans l'homme quelque chose qui est la fine pointe de son esprit. C'est pour ça que pour Aristote, la contemplation n'est pas la première finalité de l'homme. C'est la finalité ultime de son esprit. Mais il y a une finalité plus fondamentale qui est l'amitié. Et ça, c'est très important pour lui. Tandis que pour Platon, l'amitié n'existe pas, hein, pour Platon. Il y a un amour utilitaire ou un amour qui est ordonné à la contemplation, ce qu'on voit très bien dans le banquet. Mais il n'y a pas d'amitié, c'est-à-dire de lien personnel entre deux personnes. Pour Platon, c'est Eros et non pas Philia. Il parle un peu de la Philia dans le Lysis, de manière tout à fait différente. Il n'y a pas d'amitié personnelle dans un choix qui finalise une autre personne humaine par une autre personne. Et, alors oui, c'est ça que veut dire Aristote. On peut estimer que la possession de la sagesse n'est pas humaine. De tant de manières, en effet, la nature des hommes est esclave, esclave du sensible, que selon Simonide, Dieu seul peut avoir ce privilège. Et qu'il n'est pas digne que les hommes ne se bornent pas à rechercher la science qui est la leur par soi, c'est-à-dire une connaissance du sensible. On serait tenté de dire l'homme doit se contenter du sensible, du mesurable, de la description, de l'expérience. Mais est-ce que ce n'est pas de l'orgueil de vouloir s'élever plus haut? C'est la fameuse chose qui hante les Grecs, hein, l'hubris, l'orgueil. Est-ce que chercher la sagesse n'est pas orgueilleux pour l'homme? Au fond, il n'y a que Dieu qui est vraiment sage. Il n'y a que Dieu qui possède vraiment la contemplation. C'est vrai. Alors, est-ce que l'homme peut avoir l'audace de la chercher? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est humain? Ou bien est-ce que c'est démesuré? Est-ce que c'est de la démesure? Oui, c'est ça le problème posé ici. Si donc les poètes disent quelque chose, et si la jalousie est naturelle à la divinité, c'est bien dans ce cas qu'il conviendrait que la jalousie s'exerce et que tous ceux qui excellent dans le savoir soient éprouvés. Ah, vous voyez, c'est très très beau. Hein. On peut être tenté de dire Dieu seul possède la sagesse et il est jaloux de ce privilège. L'homme n'a pas à la chercher parce que quand il fait ça, il cherche quelque chose qui est propre à Dieu et c'est peut-être de l'orgueil. Donc, par conséquent, l'homme qui cherche la sagesse, c'est celui-là qui serait éprouvé par les dieux. Hein, Dieu serait jaloux du philosophe parce qu'il veut découvrir quelque chose qui est propre à Dieu. Mais on ne peut admettre que Dieu soit jaloux. Ah, c'est très très beau, oui. Dieu n'est pas jaloux au sens d'une exclusivité. Et selon le proverbe, les poètes disent beaucoup de mensonges. Et on ne doit pas estimer qu'une autre science que celle-ci soit plus digne d'honneur. La plus divine est en effet aussi la plus digne d'honneur. Or, seule une telle science serait cela de deux manières. Vous voyez, la sagesse, c'est la connaissance la plus digne d'honneur. Donc, le sage philosophe est l'homme le plus honorable parmi les hommes. C'est la plus grande noblesse de notre intelligence. C'est le respect le plus grand. Oui, c'est très très beau. Hein. Oui, c'est évident que chez les Grecs, il y a toujours quelque chose d'un peu aristocratique. Hein. Au sens, l'homme qui cherche la vérité, il a droit au respect. Hein. C'est très très beau. Et saint Thomas le reprend d'ailleurs. Saint Thomas dit que la nobilitas d'une personne dépend de son intelligence qui cherche la vérité. C'est pas l'amour qui donne la nobilitas, c'est l'intelligence. Ça veut pas dire être brillant, ça veut dire chercher la vérité, hein, chercher à connaître la vérité, chercher la sagesse. Hein. C'est la plus digne d'honneur. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance la plus divine. Et alors Aristote ajoute, quand on dit qu'elle est la plus divine, cela se dit en deux sens. C'est la plus divine en deux significations. Or, seule une telle science serait cela de deux manières. En effet, celle que Dieu posséderait au plus haut point est la plus divine des sciences, aussi bien que celle qui serait la science des choses divines. Vous voyez, deux manières de dire que c'est la science la plus divine. C'est la plus divine parce que c'est celle qui appartient à Dieu. Dieu possède la sagesse. L'homme cherche la sagesse. Et ça, c'est très, très beau. Hein. Dieu seul possède la sagesse. Oui, c'est même dit dans l'Écriture, ça. l'homme cherche à découvrir la sagesse. Donc l'homme ne possède pas la sagesse. Il cherche à la découvrir. Il est ce qui le finalise d'une manière ultime dans son intelligence. Oui. Pour Dieu, cela lui appartient par nature. Pour l'homme, c'est quelque chose qu'il découvre par la fine pointe de son intelligence. Autrement dit, on ne peut pas découvrir la sagesse pour l'homme sans la finalité. Oui, elle est la plus divine parce qu'elle est celle qui appartient à Dieu. Et deuxièmement, elle est la science des choses divines. Donc elle est la science qui a les choses divines pour objet. On peut dire qu'une chose est divine en deux sens. Soit parce qu'elle appartient à Dieu, donc elle est Dieu lui-même. Soit parce qu'elle est la connaissance des choses divines, la connaissance de Dieu. Et là, on touche un point extrêmement important et qui est capital pour toute la métaphysique dans son réalisme. Vous voyez, pour mieux comprendre ce qu'on a vu hier sur le rapport de l'être et de l'esprit. Hegel interprète un passage d'Aristote qui est proche de celui-ci. Il dit, quand on dit que la connaissance, que la contemplation et que l'intelligence est divine, quant à son objet pour l'homme, c'est là, dit-il, une erreur manifeste. Ah, c'est très très intéressant. Mais pour Aristote, notre intelligence a quelque chose de divin quand elle connaît les choses divines. En connaissant Dieu, il y a quelque chose qui m'apparente à lui. Donc, je cherche à le découvrir, je cherche à le connaître. C'est lui qui va venir déterminer mon intelligence dans ce cas le plus profond. Notre intelligence, dans ce cas de plus profond, est faite pour connaître ultimement l'être premier qui est Dieu. Et là, elle découvre la sagesse. Et donc, notre intelligence n'est pas substantiellement divine. Mon intelligence n'est pas Dieu. Mais elle est quelque chose qui est apparenté à Dieu dans sa fine pointe, dans son objet, dans ce qui la finalise ultimement. Et c'est ce que veut dire Aristote ici, vous voyez. Pour Dieu, la sagesse lui appartient. Ça, c'est propre à Dieu. Pour l'homme, c'est la science des choses divines. L'homme s'apparente à Dieu quand il cherche à découvrir quelque chose de Dieu. Et c'est vrai aussi pour Dieu, science des choses divines. Hein, parce qu'il n'y en a qu'un qui connaît parfaitement Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est très intéressant, mais Aristote le dit textuellement dans le livre Lambda. Connaître quelque chose, dit-il, c'est dépendre de cette réalité qu'on connaît. Dieu ne peut donc pas connaître quelqu'un d'autre que lui-même parce qu'il dépendrait d'une autre réalité que lui. Ce qui est contraire à Dieu puisqu'il est premier. Donc, les autres réalités, Dieu les connaît à partir de lui-même. Oui, Dieu ne peut que se connaître lui-même éternellement. Il est connaissance de la connaissance, noesis noeseos, contemplation de la contemplation. Dieu se connaît éternellement lui-même. C'est pour ça que pour Aristote, la contemplation philosophique que nous pouvons avoir de Dieu, elle trouve sa mesure ultime dans la contemplation que Dieu a de lui-même. Mais, oui, c'est une mesure. Jamais ma connaissance de Dieu ne sera adéquate à la connaissance que Dieu a de lui-même. Dieu est infini. Mon intelligence est limitée. Mais le petit quelque chose que je peux connaître de Dieu, cela prend son sens par rapport à la connaissance que Dieu a de lui-même en lui-même. Et c'est très très beau ça, hein, science des choses divines. Alors vous voyez, Hegel critique ou commente ce passage, et un passage du De Anima, en disant « Quand on dit que l'intelligence de l'homme est divine par son objet », donc, par la fine pointe, par la finalité. C'est là une erreur manifeste, dit Hegel. Car le divin, c'est l'effectuation dans son ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Que pour Hegel, il n'y a pas de différence entre notre intelligence et Dieu lui-même. Le divin, c'est le mouvement éternel de l'esprit. C'est donc se connaître soi-même qui est la contemplation, parce que c'est prendre conscience du mouvement éternel de Dieu en nous-mêmes. Hegel dira textuellement, la philosophie, c'est Dieu qui se connaît lui-même dans l'esprit de l'homme. Donc Dieu pose son autre, qui est notre intelligence, et absorbe notre intelligence dans son être, et il se connaît lui-même dans notre intelligence. Et nous, qui sommes du côté de l'esprit créé, nous prenons conscience de ce qu'est Dieu dans notre esprit par la philosophie. Vous voyez, c'est absolument abominable, non ? C'est une immanence absolue. Il n'y a plus du tout la transcendance de Dieu par rapport à notre esprit. Donc il n'y a plus d'adoration. Et pour le philosophe qui est Aristote, si la sagesse est divine pour l'homme parce qu'elle est science des choses divines, je ne peux contempler Dieu qu'à l'intérieur d'un acte d'adoration. Même si Aristote ne le dit pas textuellement, il montre que dans la sagesse, lumière et amour se rejoignent. Je ne peux pas posséder la sagesse. Le divin pour l'homme n'est pas l'effectuation de son mouvement intellectuel. Le divin pour l'homme, c'est de connaître Dieu, qui est l'être premier qu'il dépasse. Et ça, ça vous fait comprendre pourquoi on commence par l'être et pas par l'esprit. Qu'est-ce qui permet que je fasse la différence entre mon intelligence et Dieu ? Que j'affirme donc que la sagesse, c'est la connaissance des choses divines, mais que Dieu me dépasse. C'est de comprendre que je découvre Dieu comme l'être premier, par un cheminement intellectuel qui est celui que la métaphysique de l'être nous fait prendre. C'est que si je pars du « je pense », je dis « dans mon « je pense », c'est Dieu qui pense dans mon esprit. » Donc il n'y a plus de distance, c'est l'immanence absolue. C'est très intéressant. Vous voyez. La métaphysique de l'être sauvegarde la transcendance de Dieu par rapport à notre intelligence. Donc maintient le fait que la contemplation est pour nous une finalité et non pas ce que nous possédons par nous-mêmes comme un droit orgueilleux. C'est pour ça que ce passage est extrêmement important. Et c'est parce qu'on commence par l'expérience et par le jugement d'existence qu'on a une petite voie pour remonter jusqu'à l'existence de Dieu, qui est la réalité existante en dehors de notre esprit. Je vous ai dit hier, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Eh bien, le fait qu'une réalité existe en dehors de mon esprit sauvegarde ce réalisme pour me conduire jusqu'au fait que Dieu transcende mon intelligence. Et que je ne peux donc le connaître que indirectement à partir de ses effets. Et non pas directement, mais je ne possède pas la sagesse. Ce n'est pas ma vie substantielle. Donc, autrement dit, oui, la sagesse philosophique, elle est quelque chose d'extrêmement pauvre, d'extrêmement appauvrissant pour notre intelligence. C'est un jugement sans aucun concept. C'est pour ça qu'Aristote dit que quand on contemple, on est suspendu à Dieu. C'est très très beau cette expression, vous voyez. On est suspendu. Ben, celui qui est suspendu, c'est celui qui possède rien. Il est accroché, puis il espère ne pas décrocher. Oui. Mais celui qui mendie est suspendu à celui qui va lui donner. Il n'a pas de droit. On n'a pas de droit sur la sagesse. On la découvre. Elle est ce qui donne son sens ultime à la métaphysique, à notre intelligence, à la connaissance de la vérité, mais on ne le possède pas par nature. On le découvre et on est suspendu à l'être premier. Et ça, c'est le jugement d'existence qui le permet. C'est parce que, ultimement, la sagesse n'est pas quelque chose qu'on possède, que le point de départ de la métaphysique, c'est le jugement d'existence, ceci est. Pourquoi ? Parce que je n'absorbe pas votre être, je ne le possède pas. Je ne peux pas absorber dans l'immanence de ma pensée ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est en tant qu'il est, je l'atteins dans un jugement. Et la contemplation, c'est un jugement, ce n'est pas un concept. Il n'existe pas de concept de Dieu, ça c'est très important. Le concept de Dieu est contradictoire. Parce que le concept, c'est le fruit de mon esprit. Et que le jugement, c'est me rendre relatif à une réalité existante qui est autre que ma pensée. Et que cependant, j'atteins réellement, à laquelle j'adhère. Alors vous voyez, c'est ça que je veux reprendre maintenant, parce que je crois que c'est très important. Comprendre, vous voyez, que la sagesse, qui est la philosophie première dans son développement ultime, va reposer sur un point de départ qu'on a déjà touché à plusieurs reprises. Le jugement d'existence, ceci est. Alors oui, peut-être juste avant d'aborder cela, je conclus sur ce point par rapport à la philosophie d'Aristote pour que vous voyez bien le problème. Si je dis, vous voyez que la sagesse, c'est ce qui est ultime pour l'homme, c'est sa finalité la plus profonde, la plus ultime. Pour Aristote, la sagesse va donc assumer les deux grands développements de la philosophie dans ce qu'ils ont de plus profond. D'une part, la philosophie première comme science. Donc, toute la recherche de la vérité. Dans la sagesse qui me fait découvrir l'être premier qui est Dieu, nous découvrons la vérité ultime. Donc la sagesse assume dans notre intelligence toute la recherche théorétique, spéculative de la vérité, donc toute la recherche de la philosophie première comme science, dont je vais vous montrer le parcours dans un instant. Oui. L'éveil de notre intelligence spéculative. D'autre part, la sagesse, elle est pour l'homme le bien le meilleur. Elle assume donc, de manière ultime, toute la philosophie éthique qui cherche à s'interroger pour découvrir où est le bonheur de l'homme. C'est pour ça qu'au sens strict pour Aristote, la sagesse n'est ni spéculative ni pratique. Elle est éminemment spéculative et éminemment pratique. Puisque la sagesse, dans la contemplation, assume toute la recherche de la vérité, c'est ce qu'on vient de voir, ça. Si je ne possède pas la sagesse par nature, je dois chercher la sagesse. Je dois donc chercher la vérité. C'est pour ça, vous voyez, que éveiller dans notre intelligence la recherche de la vérité, c'est nous tourner de manière ultime, profonde, vers la sagesse. Je peux dire ça dans un regard de sagesse. Et c'est capital, vous voyez, même pour un chrétien, ça. Parce que si je fréquente la vérité de Dieu par la foi, ce n'est pas quelque chose qui empêche la recherche de la vérité, c'est l'inverse. La foi est un appel à chercher encore plus la vérité que si on n'avait pas la foi. Parce qu'on ne possède pas Dieu. Dieu ne peut être que contemplé. Et donc, c'est très important, ça. La philosophie, comme sagesse, assume toute la recherche de la vérité au point de vue spéculatif. Donc, toute la structure scientifique de la métaphysique qui va nous faire comprendre que c'est l'être qui rectifie l'esprit, qui mesure, qui actue l'esprit et non pas l'inverse. Et tandis que si je disais que c'est l'esprit qui est mesure de l'être, je prétends en définitive posséder la sagesse par moi-même et être mesure de toute chose. Ce que disait déjà Protagoras. Mais ce que veut dire Hegel ? Et quand il dit le divin, c'est l'effectuation dans son ensemble, le divin, c'est ma vie rationnelle, il veut dire je possède la sagesse et je mesure la réalité, je suis source de la vérité. C'est mon concept qui mesure le réel. Non, c'est ce qui est qui mesure ma connaissance. C'est donc le réalisme de ce qui est. Mais qu'est-ce qui va nous conduire jusqu'à Dieu ? C'est ce qui est. C'est la réalité existante qui appelle l'existence d'un être premier qui est Dieu et qui peut être contemplé comme cause ultime de toute chose. Oui, c'est ce qui appelle l'existence de Dieu. Seule une métaphysique de l'être peut nous permettre de remonter jusqu'à la découverte de l'existence de Dieu. Ce n'est pas l'intériorité de mon esprit qui va me faire trouver Dieu dans mon esprit. Je n'ai pas immanent à mon esprit. Oui, il y a un ordre ici, très très important. Je ne supprime pas l'intériorité, mais je mets un ordre, comme ce que je vous ai montré hier. Pour que l'immanence de la vie avec Dieu soit vraie, il faut que la transcendance de Dieu soit respectée. Et c'est le sens de ce que fait saint Thomas quand il montre qu'avant l'infini, il y a la simplicité de Dieu. La simplicité, personne ne la possède. C'est la transcendance de Dieu comme acte pur et comme substance première. Dieu ne peut être que contemplé. Je ne peux pas le posséder, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le posséder en moi. C'est lui qui me porte en lui. Je ne suis pas extérieur à Dieu puisqu'il est source de mon être. Il me porte, mais je ne possède pas Dieu dans mon esprit, vous comprenez. Pour ça, il n'y a pas de concept de Dieu. Ce serait contradictoire. Le concept de Dieu, ce serait mettre Dieu dans une cage dorée, celle de ma pensée. Pauvre Dieu. Vous voyez, Descartes a quand même un sacré toupet. Mais, et puis l'éthique. L'éthique, c'est une philosophie pratique qui cherche où est le bonheur de l'homme. Et qui va dire ultimement, le bonheur de l'homme consiste dans l'activité la plus ultime de son âme spirituelle qu'est la contemplation. C'est pour ça que c'est dans l'éthique à Nicomaque qu'Aristote parle de la contemplation. Dans la métaphysique, il dit quel est l'objet de la contemplation ? C'est l'être premier. Dans l'éthique à Nicomaque, il dit la contemplation, c'est une activité de l'âme spirituelle qui donne à l'homme son bonheur ultime, ce pourquoi il est fait d'une manière ultime. Si vous voulez le lire, c'est l'éthique à Nicomaque, livre 10. Ce sont des textes extraordinaires. Où Aristote dit que le sage est l'homme le plus aimé de Dieu, que le philosophe est l'homme que Dieu aime le plus. Parce que le philosophe cherche la sagesse qui appartient en propre à Dieu, l'homme cherche donc, s'il cherche à être philosophe, ce qui est propre à Dieu. Il s'intéresse à Dieu et dit Aristote, ça donne de la joie à Dieu. C'est très extraordinaire. Dieu est dans la joie qu'un homme cherche à le connaître. Et c'est très 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 beau, hein, parce que personne ne respecte notre intelligence au niveau naturel, plus que Dieu. Pour ça, vous voyez, mépriser l'intelligence, ce n'est jamais de Dieu. Oui, faire attention à l'orgueil, d'accord, c'est vrai que l'intelligence peut conduire à l'orgueil. Mais ça, c'est le défaut de la cuirasse. C'est qu'on peut imaginativement se prendre pour la mesure de tout. Mais l'intelligence, dans sa profondeur, elle est faite pour être contemplative. Et rien ne nous donne plus l'humilité que la contemplation. Parce que c'est être face à quelqu'un qui nous dépasse complètement. Et le vrai humble, c'est celui qui contemple. Sinon, c'est de la fausse humilité. C'est un repli sur soi psychologique. Oui. La véritable humilité, c'est celle de celui qui découvre la vérité première qui est Dieu. Et la magnanimité, Aristote dit ça dans l'Éthique à Nicomaque, que la magnanimité, c'est la vertu morale, fruit d'une connaissance contemplative. L'homme qui fréquente des choses grandes devient grand dans son âme et dans son intelligence. Il n'est pas mesquin, petit, minable. Oui. Parce qu'il fréquente quelqu'un de grand qui est Dieu. Dieu n'est jamais minable, comprenez ? C'est pas un attribut de Dieu, ça. Et, tandis que l'orgueil, c'est très minable. Ah oui, c'est très très minable, l'orgueil. Oui, alors, l'activité par laquelle l'homme trouve son bonheur ultime. Et donc, la sagesse, la contemplation est donc, pour Aristote, éminemment spéculative. Elle exige la recherche de la vérité. Éminemment pratique, parce qu'elle nous donne le bonheur le plus profond de notre âme spirituelle. Alors, et il faudrait donc, si on voulait aller jusqu'au bout, hein, voir la place de l'éthique. Ici, je vais uniquement vous montrer cet après-midi la structure scientifique de cette sagesse. C'est-à-dire, quel est son point de départ pour commencer. Elle commence par le jugement d'existence, ceci est. Et ce jugement va susciter une interrogation. Alors ça, il faut que vous reteniez ça. Les deux béquilles du philosophe, quand on voit quelqu'un qui a des béquilles, c'est très instructif pour comprendre ce qu'est la philosophie. Le philosophe avance sur deux béquilles, parce qu'il a une intelligence qui n'est pas commode à éveiller. Les deux béquilles de la philosophie, c'est l'expérience impliquant le jugement d'existence et l'interrogation. Tout repose sur l'expérience, sur le jugement d'existence, et on chemine, on progresse par l'interrogation. Et l'interrogation va commander la découverte inductive des principes propres de l'être. Alors, ça, je vous montrerai ce que ça veut dire. Ça, c'est la structure, oui, qui de la métaphysique qui progresse par l'interrogation. On va découvrir ce qu'on appelle des principes propres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans cette lumière, on peut regarder la propriété de l'être, c'est le problème de l'un. L'un est propriété de l'être. Et ultimement, regardez la personne humaine comme la réalité existante la plus parfaite qu'on puisse expérimenter. Le pos parfait de l'être. Et donc, on commence par le jugement d'existence, ceci est. On progresse, on avance en philosophie grâce à l'interrogation. L'interrogation permet qu'on découvre des principes propres, à la lumière desquels on saisit la propriété de l'être et à la lumière desquels on peut contempler, connaître ce que c'est que la personne humaine. Et le pos parfait de l'être. C'est que les principes propres, c'est le tiesti. Qu'est-ce que l'être ? Comment existe-t-il dans l'homme ? Et à partir de l'homme, de la personne humaine, le philosophe s'élève par l'interrogation jusqu'à la découverte de l'être premier, qui est Dieu. Et ça, c'est la structure de la métaphysique. Elle part du jugement d'existence, elle chemine grâce à des interrogations, elle trouve un premier sommet dans la personne humaine, elle s'élève jusqu'à l'existence de Dieu. Et ça, c'est commandé par un seul objet, la métaphysique connaît le to-on et on. Ce qui est en tant qu'il est. Ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Toute cette structure, c'est le développement de la connaissance de ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est, on le connaît dans le jugement d'existence. Ce qui est, on le connaît dans ses principes propres. Ce qui est, on le connaît dans sa manière d'exister. Ce qui est, on le connaît dans sa réalisation première et ultime, qui est Dieu. Mais c'est toujours le même objet. C'est pour ça que Aubinck, universitaire qui parle d'Aristote, s'il en est, mais qui n'a rien compris à Aristote, j'ose le dire, parce qu'il dit que la métaphysique d'Aristote, c'est un brouillon. Alors, faut le faire. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la philosophie. Il dit, c'est un brouillon qu'on hésiterait même à publier aujourd'hui. Alors Aristote, c'est pas trop où il est, alors il fait des choses, il va dans un sens, dans un autre, mais au fond, il se contredit tout le temps. Ah non, c'est extrêmement ordonné. Il y a une structure dans les principes propres, et ultimement, elle devient sagesse quand elle découvre Dieu. Et qu'est-ce qui fait l'unité d'une science ? C'est son objet. La métaphysique connaît ce qui est en tant qu'il est. Et ainsi, on voit tout le développement de notre esprit, dans l'interrogation, dans la découverte des principes propres, dans la connaissance de la personne, dans l'élévation jusqu'à la sagesse. Et on verra que dans la recherche métaphysique de ces principes propres, il y a quelque chose qui est capital, c'est le problème de la finalité, ce qu'on a appelé l'être en acte. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Le 9 mai 97, troisième cours.
Alors, il y a deux, trois questions. D'abord, une question tout à fait pratique. Quelle traduction française des livres de la métaphysique d'Aristote faut-il suivre comme étant la plus proche de la pensée du philosophe? Je vous conseille de le lire en grec. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de traduction actuelle qui soit bonne. Si vous êtes latiniste, vous pouvez vous aider de la traduction faite par Guillaume de Moerbeek pour saint Thomas, qui est très fidèle, très littéral. Ça peut vous aider si vous n'êtes pas helléniste. Mais sinon, non, il n'y en a qu'une en fait en français qui soit vraiment publiée, c'est celle de Tricot, dans Chevrin, mais qui est extrêmement mauvaise. Donc il faut au moins essayer d'avoir un peu de grec pour voir un peu le vocabulaire d'Aristote. Je ne peux pas dire mieux. Alors ensuite, pouvez-vous revenir un moment? Ça, je ne vais peut-être pas, mais éclairer peut-être par un autre aspect. Pouvez-vous revenir un moment sur les trois moments d'une pensée dialectique hegelienne en prenant un exemple simple? Mais justement, vous voyez, il n'y a pas d'exemple simple dans la pensée dialectique. Parce qu'elle ne se comprend pas autrement que par rapport à une pensée réaliste. Et c'est ça que vous compreniez. C'est pas l'erreur qui éclaire la vérité. Alors, je prétends que la vision hegelienne est une erreur. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Et vous voyez, c'est pas l'erreur ne se comprend jamais par elle-même. C'est connaître la vérité qui nous éclaire, et la vérité est simple. L'erreur est toujours complexe. Sur ça, c'est pas étonnant que la pensée hegelienne, vous voyez, c'était le père Dubarle qui disait ça, un dominicain, qui disait que si on commence à mettre le petit doigt dans la pensée hegelienne, on n'en sort plus, on y passe tout entier. C'est un engrenage, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que Hegel est incritiquable. Au sens strict, c'est vrai. Si vous rentrez dans la dialectique, elle est incritiquable parce que c'est une espèce d'immanence. Oui, on est dans une espèce de jeu logique, si vous voulez. Et ça semble parfaitement cohérent. Donc on ne peut la saisir, je dirais, que de l'extérieur en fonction d'une pensée réaliste. Pour ça, je vous ai dit hier, si vous vous rappelez, je crois que c'est ça qui vous éclaire le plus. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre le point où ça peut être un petit peu juste, c'est si on se situe dans la perspective de la croissance. Alors, si on regarde la croissance du vivant et qu'on regarde la croissance pour elle-même, on peut dire la croissance suppose que le vivant soit un individu, donc c'est une identité, et qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ce qui est extérieur à lui. Le vivant dans sa croissance s'assimile quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous nourrissez? Vous avez un exemple récent d'un repas. Et c'est l'avantage de manger en communauté. Parce que oui, c'est effarant quand vous arrêtez un instant pour voir quelqu'un manger. Il engloutit, mais c'est effrayant, vous voyez. Voir le vivant qui mange, mais c'est impressionnant. Alors, il y en a certains qui disent, ça y est, est-ce que tu as bientôt fini de détruire, vous voyez? Le vivant, quand il mange, il détruit. C'est bien, il mastique, vous voyez, ça s'entend. Vous voyez. C'est pour ça qu'on met une lecture, pour qu'il y ait un bruit de fond, vous voyez, qui évite les mandibules. Vous voyez. Vous savez, mais c'est impressionnant, si vous avez déjà été, quand il y a une invasion de criquets, c'est assourdissant. Le bruit des mandibules, les criquets qui mangent la végétation, c'est ahurissant, le bruit que ça fait. C'est très impressionnant. Et vous savez ce que c'est que la nutrition, quand vous entendez ça. Et le vivant s'assimile ce qui est extérieur à lui pour le faire sien. Mais c'est prodigieux si on réfléchit un instant là-dessus. Et le monde physique est un monde d'extériorité. Un caillou agit sur un autre caillou par contact. Oui, c'est une question que se posait Empédocle, philosophe grec de Sicile du 6e siècle. Et Empédocle se pose la question, est-ce que le feu est vivant? Alors il dit, pour répondre à cette question, il faut voir, est-ce que le feu se nourrit? Parce que le propre du vivant, c'est qu'il se nourrit. Le caillou ne se nourrit pas. Et l'arbre est un vivant parce qu'il se nourrit. Et la nutrition, c'est quoi? Le vivant se meut, il s'assimile quelque chose d'extérieur à lui pour le faire sien. Mais c'est extraordinaire, ça. Et on ne réfléchit pas là-dessus, on trouve ça tout à fait normal. Mais c'est prodigieux le phénomène de la vie pour le philosophe. Hein, et la vie, et autant le monde physique, donc le monde qui est non vivant, hein, c'est un monde qui implique l'extériorité. Vous voyez, c'est ce que nous montre par exemple l'expérience du lieu. Hein. Le lieu, c'est occupé par un corps physique. Et quand je dis à quelqu'un, ôte-toi de là que je m'y mette, je fais très bien comprendre ce que c'est qu'expérience du lieu. Le lieu, personne ne peut être dans mon lieu. Nous sommes dans une même pièce, mais chacun a un lieu unique. Et puis, il y a ce qu'on appelle le situs, c'est l'organisation des différents corps les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a des relations, il y a un tout constitué de parties. Quand je regarde le lieu, c'est l'extériorité. Vous voyez, le monde physique extériorise. La matière est source d'extériorité. Le vivant, dans l'assimilation végétative, dans la nutrition, c'est l'immanence. Vous voyez, le vivant se meut, il se nourrit. Tandis que le monde physique, il est mu. Il est dans l'extériorité. Et donc, c'est ça qu'on voit. Alors, c'est ça, au fond, qui fascine Hegel. L'immanence du vivant. Et c'est dans la vie de l'esprit que l'immanence est la plus grande. Vous savez, là, s'il y en a qui connaissent, au moins, je dis au moins ça pour les frères, hein, dans Saint Thomas, dans le Contrat Gentiles, livre 4, chapitre 11. C'est un chapitre extraordinaire pour voir ce que c'est que l'immanence de la vie. Où Saint Thomas a l'audace d'aller du monde physique dans son extériorité jusqu'au mystère de la très sainte Trinité. L'immanence la plus grande, c'est le mystère de Dieu. Dieu éternellement, dans sa propre contemplation de lui-même, engendre éternellement un verbe qui est son Fils. Il n'y a pas d'immanence plus grande que le mystère de la très sainte Trinité. Et cependant, Dieu transcende toutes ses créatures. Il est le tout autre et en même temps, il est le plus présent. Alors vous voyez, c'est très intéressant de voir ça, que l'immanence commence avec la vie. Et l'immanence la plus fondamentale, c'est de la nutrition. Même la respiration, oui. Quand je respire, alors réfléchissez pas trop dessus, parce que vous n'arriverez plus à respirer. Hein. Vous vous dites, comment je respire là ? Voyez, je fais des exercices, puis j'y arrive plus. Vous voyez. Donc, je fais ça naturellement. C'est déterminado unum, c'est instinctif. Mais quand vous respirez, il y a quelque chose d'extérieur à vous qui devient vous. Et vous assimilez quelque chose, mais c'est extraordinaire ça. C'est pour ça que même les biologistes contemporains sont d'accord là-dessus, que l'opération fondamentale du vivant, c'est l'assimilation vitale. Le vivant s'assimile quelque chose d'extérieur à lui pour le faire sien. Alors vous voyez, si je regarde tout du côté de la croissance, je dis j'assimile quelque chose pour réparer mes forces et pour grandir autant que je le puis jusqu'à une mesure qui est que j'arrive à un état de perfection. Vous voyez, le vivant nourrit, se nourrit et croit jusqu'à un état de perfection qui est, du point de vue de la vie végétative, la capacité d'engendrer. Être adulte du point de vue de la vie végétative, c'est être capable d'engendrer. Donc, je peux dire ça, vous voyez, la perfection. Et c'est une perfection qui est d'ordre de la nature. Vous voyez, le vivant, vous voyez, prenez la différence hein, entre l'accumulation du monde physique et l'assimilation vitale. Oui, si, hein, il y a des imaginations qu'on peut avoir de temps en temps comme ça, hein, surtout quand il y a des gens qui sont des gros mangeurs. Si on alignait dans un smirmorque tout ce qu'ils ont mangé quantitativement depuis qu'ils sont nés, mais on serait effarés. Oui. Ah oui, si vous n'étiez que la somme quantitative de tout ce que vous avez mangé. Vous voyez un peu ? Il faudrait un couvent plus grand que celui-là, parce que chacun devrait avoir une cellule, un couvent entier, pour avoir tout ce qu'il transporte avec lui. Et la quantité est l'immanence du vivant. C'est étonnant que le vivant s'assimile quelque chose d'extérieur à lui, et puis il a une taille qui est normale. Enfin, normale, normalement, vous voyez. Mais, normalement, il y a une mesure vitale. L'assimilation. Vous voyez, Hegel est fasciné par ça. L'immanence de la vie et la croissance du vivant qui peut se développer lui-même. Alors, au point de vue de la vie végétative, il y a une mesure. Au point de vue de la vie de l'esprit, il y a un infini. Notre intelligence est indéfiniment capable de progresser. Et c'est ça qui fascine Hegel. Il veut une pensée de l'infini. Il cherche une pensée de l'infini. Donc c'est un mouvement permanent. Il dit, la philosophie, c'est l'élévation du fini à l'infini. C'est le fini qui cherche une capacité de pensée infinie. Alors si je me situe du côté de la vie, dans son immanence, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de limite à l'intentionnalité spirituelle de l'homme. Et c'est pour ça que c'est si important, le problème de l'être et de l'esprit. Hein. Si je prends la vie pour elle-même et que je ramène l'être à la vie, je suis séduit par une pensée de l'infini. Alors, la croissance, voyez, le vivant s'assimile ce dont il a besoin pour grandir autant qu'il le peut. Et pour Hegel, la fécondité, qui est le jugement, dans la vérité, disparaît. C'est la croissance qui est sa loi à elle-même. Donc je ne peux pas expliquer ça plus. Il y aura un petit exemple qui pourrait vous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose de juste, comme dans beaucoup de pensées modernes, si on se situe du point de vue de la philosophie de l'art. Ce que je vous ai exposé hier, la conception que Hegel a de la liberté, c'est vrai pour l'artiste. Pour l'artiste, au point de départ, la matière, c'est ce qui n'est pas son idée. Et il doit conquérir la matière pour qu'elle soit adaptée à son idée. Et il doit devenir chez soi, dans l'autre. Alors qu'au point de départ, la matière lui est plutôt étrangère. Oui, hein. L'artiste vous dira, moi je me bagarre contre la matière, et puis elle résiste, elle n'est pas docile. Il faut donc que, petit à petit, je l'apprivoise pour qu'elle arrive à exprimer ce que je veux porter. Et que mon concept, plutôt que mon idée artistique, s'incarne, s'exprime dans une matière qui par elle-même n'est pas liée à cette idée. Donc pour l'artiste, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un rôle si important de la négation dans la philosophie dialectique. Et ce qui au point de départ est extérieur, la matière, pour l'artiste, au point de départ, elle est extérieure à son idée. L'idée, fruit de l'inspiration. Et cette idée demande d'assumer une matière pour être dans l'œuvre. L'œuvre, ça implique la distinction entre la forme et la matière. La forme, elle provient de l'idée de l'artiste. La matière, c'est un donné, capable d'être transformé par le travail. Donc, au point de départ, la matière, c'est ce qui n'est pas mon idée. Elle doit devenir ce qui est uni à mon idée dans l'œuvre d'art. Donc, que je devienne chez moi dans la matière. Oui, c'est la vision hegelienne de la liberté. Hein. La liberté du quant à soi, j'ai mon idée, la matière m'est extérieure. La liberté du chez soi, j'ai conquis la matière pour que mon idée soit à l'aise dans la matière. Pour ça que, et c'est très éclairant, parce que vous voyez, toutes les philosophies modernes, ce sont des philosophies qui confondent philosophie de l'art et métaphysique. Elles conçoivent la métaphysique à la manière d'une œuvre d'art. C'est un système, c'est une idée qu'on développe. C'est vrai de l'artiste, c'est pas vrai de la métaphysique. La métaphysique, c'est connaître ce qui est, je vous dis. Donc c'est une connaissance contemplative. Vous voyez, on a vu ça ce matin pour Aristote. La sagesse n'est pas un faire. C'est pas de l'ordre du faire. C'est de l'ordre d'une contemplation. Connaître ce qui est. Et ce qui est nous amène jusqu'à la réalité première qui est Dieu. Dieu n'est pas le produit de ma pensée, je ne le fais pas. Tandis que dans la philosophie dialectique, qui va donner naissance à ce qu'on appelle une idéologie, justement, c'est un développement idéologique. C'est une idée qu'on développe avec cohérence dans un système. Et le système est clos sur lui-même. C'est pour ça que Hegel dira tout le temps qu'il ne cherche pas la simplicité, mais il cherche le tout. Mais c'est très significatif, ça. Pour Aristote, la sagesse n'est pas un tout. C'est chercher la simplicité de Dieu. On s'unifie en découvrant la sagesse en philosophie. Pour Hegel, l'unité est celle du tout. Toutes les parties sont constituées dans l'unité d'un système qui est un tout. Donc, voyez bien ça. Je ne peux pas dire plus, voyez, parce que ce serait nous entraîner trop loin. Mais je crois que c'est important. Retenez au moins ça, voyez. Je crois qu'à partir de Descartes, beaucoup de philosophes conçoivent la métaphysique à la manière d'une œuvre d'art. C'est une idée qu'on réalise. Donc, la conception qu'ils ont de la liberté, c'est la conception de la liberté artistique, et non pas la liberté morale qui présuppose l'amour. L'amour au sens strict n'est pas libre. C'est pour ça que quand on parle d'amour libre, c'est une vaste plaisanterie. L'amour n'est pas libre, il s'impose. Mais j'accepte librement d'aimer. Donc la liberté est seconde par rapport à l'amour. Dit qu'au point de vue artistique, c'est l'idée qui commande ce que je veux faire, et l'artiste ne reçoit aucun conseil dans son idée. Il a son idée qu'il veut faire. Ça, c'est très important. Oui, par exemple, regardez la conception que Sartre a de la liberté. C'est une conception complètement artistique. L'homme n'est que ce qu'il se fait. Il dit ça textuellement. Je ne peux rien donner comme conseil à une personne humaine. Il donne cet exemple dans L'existentialisme est un humanisme, de cet étudiant qui vient le trouver, qui vient lui dire, voilà, que vaut-il mieux faire? Ma mère a besoin de moi, elle est malade, ou bien est-ce que je dois aller en Angleterre pour m'engager pour mon pays, ce moment de la guerre? Et Sartre dit, je ne peux pas répondre à cet étudiant, je ne peux pas lui donner un conseil. Parce que si je l'influence, il n'est plus libre. C'est terrible de dire ça. Parce qu'au point de vue moral, un conseil, je m'engage envers une personne. Si je donne un conseil, je suis responsable de ce que je dis. Donc, et comment je vais réfléchir? Je dois réfléchir, le conseil que je vais lui donner, est-ce que ça va l'aider à aimer plus, à être plus homme, à aller plus loin dans sa finalité, si je me considère comme un ami de cette personne? Ou bien si je veux le détruire, au contraire, je donne un conseil qui va l'abîmer. Ça peut être pervers, un conseil. Un conseil vous donne une très grande autorité sur quelqu'un. Ça vous engage. Sartre dit, ah non, je ne dois surtout pas m'engager. C'est lui qui doit choisir en fonction des circonstances, morale de situation. Rien ne doit le déterminer dans son choix. Oui, c'est le primat de la liberté. Et il ajoute, l'homme n'est que ce qu'il se fait, et c'est pour ça qu'il dit, cette position, c'est tirer les conséquences logiques d'une position athée cohérente. S'il n'y a plus de finalité, l'homme est à lui-même son propre projet. Il se réalise comme il l'entend, selon sa liberté. Et donc je dois tout néantiser pour que tout apparaisse dans la liberté. On veut le néant pour que tout soit créé par liberté. Bon, ça, c'est juste de l'artiste. Et l'artiste vous dira, je ne dépends de personne. Et d'une certaine manière, il doit tout nier pour tout reprendre à partir de son inspiration. Et pour l'artiste, c'est juste. L'artiste dira toujours, j'ai pas d'influence, ou bien entre l'expérience artistique et l'inspiration, il y a un renouveau qui implique une certaine négation, une certaine annihilation de tout ce qu'il a déjà fait. Il vous dira, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus peindre. Ben, on rigole parce que c'est une manière de dire d'artiste. C'est pour dire qu'il doit toujours tout reprendre. Il n'y a jamais rien, il ne peut jamais continuer. Je dois tout reprendre à zéro tout le temps. Ce qui n'est pas vrai du point de vue moral. Vous voyez ? Donc il faut faire attention à ça. Alors, en dernier lieu, puis après je ponctue quelques aspects. Comme obstacle à la métaphysique aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas l'imaginaire, oui, c'est ce que j'ai dit, dans lequel nous sommes constamment plongés par la télévision, le cinéma, oui, ça c'est sûr. La recherche des plaisirs immédiats et éphémères, c'est sûr. Ça, je vous affirme, c'est très difficile de faire un cours de métaphysique en dehors d'un contexte comme celui d'ici. Mais enseigner la métaphysique dans un lieu d'agitation où les gens sont devant la télévision toute la journée, c'est impossible. Les gens sont dans l'extériorité. Oui, c'est pour ça que c'est très difficile d'enseigner la philosophie en université aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas dans un milieu qui dispose à réfléchir de manière profonde. Alors ça pose une question qui est plus profonde mais qui est très intéressante, que moi, plusieurs professeurs d'université m'ont posée comme question. En disant, mais c'est impressionnant de voir qu'un climat religieux aide à la métaphysique. Alors, ils posaient carrément la question, pour vous, qu'est-ce que vous dites ? Peut-on encore faire de la métaphysique en dehors d'un contexte religieux ? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Et pour les Grecs, faut bien vous dire, les Grecs disaient qu'il fallait un climat religieux pour faire de la métaphysique. Plotin, quand il faisait un cours de métaphysique, Plotin, païen, quand il faisait un cours de métaphysique, quand il trouvait que le cours était trop difficile, il disait « Arrêtons-nous et prions les dieux pour qu'ils nous éclairent. Faites ça en Sorbonne. » C'est important, vous voyez pourquoi ? Parce que si la métaphysique est ordonnée à une sagesse, c'est le respect de ce qu'il y a de plus profond dans notre intelligence. Et aujourd'hui, je crois que ça a des conséquences très grandes sur l'intelligence. Vous voyez, un climat de laïcité au sens de bannir l'attitude religieuse en disant qu'elle n'est pas humaine, c'est quelque chose qui stérilise l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. La métaphysique est née dans un contexte de tradition religieuse et dans un climat artistique. Donc, vous voyez, le poids positiviste et laïque étouffe la recherche métaphysique, c'est bien évident. Comment voulez-vous vous poser des questions ultimes sur l'homme quand vous êtes uniquement dans la mesure et dans les choses temporelles ? C'est très difficile. Dans l'efficacité, dans le devenir, dans le mouvement, dans l'agitation. Moi, oui, j'ai fait souvent cette expérience. Faire un cours métaphysique à des étudiants qui sortent du métro et qui sont dans l'agitation de Paris, c'est très très difficile. Parce qu'il faut tout le temps tirer. Il n'y a pas cette disposition qui fait qu'on est là pour réfléchir. Il faut tout le temps conquérir. Ça ne va pas de soi. Ici, ça va de soi. Ça ne pose pas de problème. Ça ne veut pas dire que seul le religieux peut faire de la philosophie. Et que j'ai besoin d'un certain milieu pour que mon intelligence, dans sa fine pointe, puisse s'éveiller. Et ça, c'est évident. Sinon, on est un pur rationaliste si on croit que l'intelligence s'éveille dans n'importe quel contexte. N'importe quel éducateur sait que c'est faux. Il faut un certain climat affectif et intérieur pour que l'intelligence s'éveille dans ces questions profondes. On sait très bien que certains milieux nous stérilisent complètement, intellectuellement. On est sec. Alors, vous voyez, ça c'est important comme question, je crois. Autrement dit, on a besoin d'une certaine intériorité pour faire de la philosophie. Ça, je crois que c'est essentiel. Et Plotin le disait déjà. Plotin dit « D'où vient donc que les âmes ont oublié Dieu leur Père ?» et que fragments venus de lui, elles l'oublient et l'ignorent. C'est qu'elles sont dans la distraction. C'est la cinquième Énéade. C'est très très beau, oui, qu'un païen dise ça. Alors, je voulais simplement conclure avec, en ponctuant, en reprenant ce que je vous ai dit ce matin, en terminant rapidement, en ponctuant quelques aspects qui me semblent très importants. Et je vous ai dit que ce qui me semblait essentiel, c'était de comprendre, et là on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu hier, que tout commence, tout repose sur le jugement d'existence. Ceci est. Alors je voudrais revenir un instant là-dessus, parce que je crois très important. hein, et que la philosophie première va commencer, hein, se développer avec l'interrogation qui va porter sur l'être. On verra que cette interrogation va être double. Hein. Qu'est-ce que l'être? Et en vue de quoi l'être? Et qui sont liés à ce qu'Aristote a appelé la découverte des causes en philosophie. Ce qui est un problème extrêmement important et qui est ce qu'on appelle aussi au point de vue critique la place de l'induction en philosophie. Oui, ça c'est très important à saisir. Oui, parce que la plupart du temps, on a retenu d'Aristote que le raisonnement déductif. On dit très très fréquemment, hein, Aristote, sa découverte, c'est le syllogisme. Aristote dit exactement l'inverse lui-même. Il dit, tout syllogisme présuppose une découverte du nécessaire qui se réalise par induction. Et alors là, je touche un point, hein, qui me semble très important. Et au point de vue du raisonnement philosophique, il y a deux types principaux de raisonnement. Il y en a plus que cela, mais il y en a deux principaux pour ce qui nous concerne ici. Il y a ce qu'on appelle l'induction. L'induction, hein, pour résumer, c'est le passage de l'expérience à la découverte d'un principe, d'une cause. C'est le passage d'un fait que je constate au pourquoi ce fait. Et en grec, le fait, le to oti, c'est un fait qui s'impose, ça implique une évidence. Et puis le pourquoi ce fait est-il comme cela, c'est en grec le to dioti, hein, le pourquoi. Et je ne peux pas chercher pourquoi une chose sans avoir l'évidence d'un fait. Et Aristote donne un petit exemple très simple. Il dit, il tonne, il y a du tonnerre. Pourquoi tonne-t-il? Et si je n'ai pas l'évidence qu'il tonne, je ne cherche rien. Je n'interroge pas sur l'évidence du fait. Le fait est évident, c'est l'expérience, c'est le jugement d'existence, ceci est, qui est fondamental et premier. Je dis, Pierre marche. Je constate, c'est un fait. Pierre marche sous la pluie. Pourquoi marche-t-il? Quelle est la cause pour laquelle il marche? Est-ce que c'est pour aller prendre son train? Est-ce que c'est pour se détendre? Est-ce que c'est parce qu'il est tombé en panne de voiture et il revient à pied au couvent? Pourquoi? Oui. Quelle est la cause pour laquelle il marche? Il peut y avoir diverses causes à un fait. Et donc, vous voyez, l'induction, c'est passer d'un fait d'expérience que je constate à la découverte d'un principe. Principe, ça veut dire premier, quoi. D'un principe, d'une cause, qui explique pourquoi ce fait que je constate dans l'expérience. C'est donc le passage, hein, de quelque chose de visible à une cause qui est invisible et que seule l'intelligence saisit. Alors, qu'est-ce qui permet l'induction philosophique? C'est l'interrogation. On va induire un principe dans la mesure où on interroge. Pour interroger, quand j'interroge, je prends du recul sur mon expérience. L'expérience, je suis collé à la réalité. Oui, donc d'une certaine manière, dans le jugement d'existence et dans l'expérience, c'est bien la réalité qui s'impose, qui est première, radicalement. Dans l'interrogation, c'est l'intelligence qui est première. Oui, le réel n'interroge pas, c'est l'intelligence qui interroge. Vous voyez comme c'est intéressant, hein ? Je l'ai dit hier, l'ordre entre l'être et l'esprit. Dans l'interrogation, l'esprit est premier par rapport à l'être. C'est mon intelligence qui interroge. Le réel n'interroge pas et Dieu n'interroge pas, si ce n'est pour nous. Et Dieu contemple. Et on interroge pour mieux connaître. Alors, vous voyez que c'est très, très intéressant, hein, que si je commence par l'interrogation, c'est encore une manière de mettre le primat de l'esprit sur l'être. C'est pour ça que j'affirme avec beaucoup de force que l'interrogation naît à partir de l'expérience. L'interrogation n'est jamais première. Et ça, c'est capital par rapport à Heidegger. Parce que Heidegger commence par l'interrogation. Il commence son introduction à la métaphysique par cette question. Pourquoi donc y a-t-il de l'être et non pas plutôt rien? Mais vous ne posez pas cette question, parce que ça veut dire que vous mettez le possible avant l'être quand vous dites ça. L'être, il s'impose. Ceci est. Ensuite, pourquoi ou qu'est-ce que l'être? Et c'est pour ça qu'Heidegger dit, on ne peut pas faire plus loin que d'interroger. On interroge. Et on reste dans l'interrogation, on reste dans l'attente, pour que l'être trouve sa latence, hein, qu'il vienne au jour. Mais on interroge, on interroge, on interroge. pour le philosophe réaliste, parce qu'on commence par l'expérience, on prend du recul en interrogeant, et l'interrogation est finalisée par la découverte de la vérité. On revient donc à l'expérience dans la lumière de l'interrogation. Et ça, c'est capital. Donc, quand j'interroge, je prends du recul pour saisir dans le réel que j'interroge ce qui est premier dans cette réalité sous l'angle de l'interrogation que je lui pose. Et quand je dis « Vous êtes assis », pourquoi êtes-vous assis ? Et vous êtes assis, ça s'impose, je le constate, c'est évident. Pourquoi êtes-vous assis ? Je cherche à découvrir en vous quelque chose de premier qui explique un fait que je constate, donc une cause, un principe. Mais si je n'interroge pas, je me contente de décrire. Et l'expérience, elle est source d'abord d'une description. Je peux décrire mon expérience. Et la phénoménologie s'entend parfaitement à décrire l'expérience interne. Pourquoi on commence par l'expérience externe en philosophie réaliste ? Pour comprendre la place de l'interrogation. Le réel, je ne le connais pas parfaitement, j'en ai pas l'intuition. Je dois donc accepter d'interroger pour mieux connaître. C'est pour ça que vous voyez que Aristote, dans le texte que j'ai lu ce matin, dit « La philosophie commence par l'étonnement. Or, s'étonner, c'est reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Par conséquent, l'étonnement suscite l'interrogation. » Il y a donc l'expérience. L'expérience suscite en nous un certain étonnement, une certaine admiration. Et si on s'étonne et qu'on admire, c'est ça qui suscite l'interrogation, qui est une demande pour mieux connaître. J'interroge pour revenir à la réalité dans la lumière de mon interrogation, afin de saisir dans le réel ce qui est premier. Et donc que l'être s'impose à mon esprit dans ce qu'il a de premier. Donc l'être est bien premier par rapport à l'esprit. Dans l'interrogation, l'esprit est premier, mais c'est finalisé pour que je connaisse mieux la réalité. L'interrogation est finalisée par la découverte de la vérité. Vous voyez, ça c'est très très important. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. Parce que si vous osez dire, vous avez trouvé la vérité, on vous dit, espèce d'intolérant. Tandis que si vous dites, je cherche, j'interroge. Alors ça, c'est merveilleux, vous avez toutes les portes ouvertes. Alors, il faut le savoir, il faut faire un peu de rhétorique. Je cherche. Il faut faire semblant qu'on n'a pas trouvé. Je cherche. Puis d'un coup, on dit, j'ai trouvé. Alors, comme ils ont trouvé avec vous, ils sont très contents, ils ont aussi trouvé. Ça, c'est de la pédagogie, pas plus. Mais c'est très important, parce que les gens, dès que vous dites une vérité aujourd'hui, ils disent, c'est intolérant. Mais non, c'est pas intolérant si c'est la vérité, c'est le réel. Il faut être sensible à ça, vous voyez. Alors, il faut comprendre que l'interrogation naît de l'expérience. J'interroge à partir de l'expérience parce que le réel expérimenté me dépasse. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant. Parce que quand quelque chose vous dépasse, il y a deux attitudes affectives que ça peut provoquer. Et là, c'est aussi la différence entre le réalisme et, je mets pour faire vite, une étiquette, mais j'aime pas trop dire ça, l'idéalisme, parce que c'est tellement varié qu'il ne faut pas trop dire ça. Disons une philosophie qui commence par le « je pense ». Si le réel vous dépasse, si vous êtes réaliste, ça vous étonne. Et vous voulez aller plus loin, vous interrogez. Si vous commencez par le « je pense », ce qui est autre que votre « je pense » risque de vous mettre dans l'angoisse. Pourquoi ? Parce que je ne le domine pas. Je vois qu'il y a quelque chose qui est extérieur à ma pensée, donc ça m'inquiète. Suis-je sûr que je vais arriver à le connaître ? Oui, ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça que des gens comme Heidegger ou comme Sartre disent que pour entrer en philosophie, il faut entrer dans l'angoisse. Oui, c'est très intéressant, c'est le problème affectif, ça. Le climat affectif dans lequel s'éveille notre intelligence. Est-ce que le réel, autre que vous, vous angoisse ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez l'admirer ? Est-ce qu'il vous étonne ? C'est très intéressant, ça. Or, ça vient de la place qu'on accorde à l'expérience. Si on reconnaît que notre pensée repose sur l'expérience, l'expérience est quelque chose de positif, et on l'admire, le réel. Si au contraire on commence par la prime à la subjectivité, ce qui est autre que nous est toujours autre que nous. L'enfer, c'est l'autre. Et donc, ça nous angoisse. Et on n'est pas sûr d'arriver à le connaître. Oui, c'est pour ça que la philosophie réaliste a la confiance dans le fait que le réel qui est autre que moi, je peux le connaître. Il ne m'inquiète pas. Je suis prêt à découvrir quelque chose. Oui, mais c'est très important. Il faut accepter de reconnaître que je n'ai pas d'a priori et que je veux recevoir le réel expérimenté tel qu'il est, et que j'essaye de me dépouiller de tous mes a priori pour le recevoir tel qu'il est, en acceptant de ne pas le connaître au départ. Et c'est la fameuse chose d'Aristote qui dit qu'au point de départ de la connaissance, l'intelligence elle est tabula rasa. Table rase. Comme une tablette de cire sur laquelle rien n'est inscrit en acte. J'ai pas de forme a priori pour connaître. J'ai pas un filet dans lequel je prends mes poissons. L'intelligence, elle est pure puissance à l'égard de ce qui est. Donc tout ce qui est m'intéresse. Donc il n'y a pas de méthode en philosophie, hein, comme je vous l'ai dit hier. C'est le réel qui va guider ma recherche. L'analogie en philosophie réaliste, c'est la structure d'une intelligence qui est faite pour ce qui est et qui reconnaît que c'est l'être qui mesure la connaissance. Vous savez que la dialectique, c'est le primat du sujet, hein, primat de l'identité. Mais on retrouve toujours les mêmes choses. Hein. Donc l'interrogation naît dans un climat d'étonnement et d'admiration. Et j'interroge pour mieux connaître. Et donc ça, l'interrogation va commander ce qu'on appelle une induction, hein, où l'intelligence dépasse le sensible, le visible, les apparences, le fait expérimenté, pour essayer de découvrir en profondeur un principe, une cause, le pourquoi de ce que je constate dans l'expérience. Je vais vous donner un petit exemple dans un instant. L'autre raisonnement philosophique, qu'on appelle la déduction, c'est le cheminement inverse. La déduction, dont l'exemple le plus facile, si vous voulez, le plus clair, hein, c'est ce qu'on appelle la déduction en matière nécessaire. Donc, ce qu'on appelle la déduction scientifique, c'est ce qu'on appelle le syllogisme. Le syllogisme qui est d'arriver à une conclusion. Qu'est-ce qu'on fait dans un syllogisme ? On se sert d'un principe d'où on tire une conclusion en éclairant un réel par ce principe. Ou un axiome, si vous voulez. Quand je dis, par exemple, je prends un exemple très simple, j'ai déjà pris hier, hein, quand je dis tous les hommes sont mortels, c'est un axiome. Parce que c'est un caractère universel. Ça présuppose une certaine recherche inductive. Vous voyez, j'ai vu que la plupart du temps, les hommes meurent arrivés à un certain âge. Et j'en ai pas vu qui, jusqu'à maintenant, reste immortel. Donc j'en tire, hein, je découvre par induction que tous les hommes sont mortels. C'est une certaine induction, là. Très simple. Hein. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, et j'en tire une conclusion. Vous voyez, c'est le chemin inverse. Hein. L'induction, c'est le passage de l'expérience au principe. C'est l'aspect de découverte de la philosophie. On découvre un principe. C'est pour ça qu'on voit la qualité d'une intelligence philosophique dans sa capacité d'induire, de saisir un principe. C'est là qu'on voit si quelqu'un pige en philosophie ou ne pige pas. Tandis que la déduction, je ne découvre rien de nouveau. La déduction, je montre à partir du principe toute l'intelligibilité que le principe me permet d'avoir de la réalité. J'éclaire la réalité expérimentée par le principe pour en tirer une conclusion. Je dirais, j'exploite toute la richesse intelligible du principe. Et la déduction, ça ne vous fait donc rien découvrir de nouveau au point de vue de la pénétration de l'intelligence. C'est de l'ordre de l'extension, avant tout. Et c'est très important, ça. C'est pour ça que vous avez des gens qui, quelquefois, savent très très bien déduire, mais vous pouvez vous faire tout ce que vous voulez, ils ont un mal fou à saisir l'induction. Ils n'ont pas une intelligence très pénétrante. Elle est très extensive, mais pas très pénétrante. Et ça, c'est très important de bien voir ça. Alors, vous voyez, en métaphysique, le jugement d'existence va donner naissance à deux grandes interrogations. Qu'est-ce que l'être, en vue de quoi l'être ? Qui vont nous permettre de découvrir par induction ce qu'on appelle les principes propres de l'être. C'est-à-dire ce qui est premier dans ce qui est, dans la ligne de la forme, qu'est-ce que l'être ? Ce qui est premier dans ce qui est, du point de vue de la finalité, en vue de quoi l'être ? Ah oui, je ne vais pas m'arrêter là, parce que ce serait extrêmement difficile, ça présupposerait beaucoup de choses, mais il faut au moins que vous voyez ça. Pourquoi je peux dire ça, vous voyez ? Je n'ai pas une connaissance logique de l'être. Et quand j'interroge qu'est-ce que l'être, je ne peux pas définir l'être. L'être n'est pas définissable. Vous voyez, c'est cette fameuse chose que je vous ai dit ce matin, qui est très intéressante et bien importante à saisir. Si je vous demande qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que vous allez répondre ? Pouvez-vous me donner une définition logique ? Non ? Il n'y a pas de définition de l'être. L'être ne se définit pas. L'être, pourquoi il ne se définit pas ? Parce que je peux partir de cette affirmation qui vient de l'expérience. To on, legetai, polakos. L'être est dit de multiples manières. Donc l'être implique une très grande diversité analogique. Oui, je dis « je dors, je suis éveillé ». Mais j'existe dans les deux cas. Donc l'être, c'est à la fois pour l'homme dormir et être éveillé. Je suis capable de contempler, je contemple. Je peux travailler, je travaille. Puis si je regarde les déterminations, oui, je suis debout, ça existe. Si je m'assieds, j'existe encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle la position, c'est la catégorie du situs. Je peux dire je suis ami avec un tel. C'est l'ordre de la relation. J'ai telle qualité, j'ai telle quantité. Je pèse 150 kilos. C'est la quantité, ça existe la quantité. Oui, je peux dire ça. Et donc, je décris les déterminations. Tout ça, c'est ce qui est. Et donc, comment saisir, comment connaître ce qui est. Vous voyez, quand je dis ceci est, qu'est-ce que l'être? Je ne peux pas définir l'être. Donc, je ne peux saisir ce qu'est l'être qu'en saisissant dans ce qui est premier, dans un ordre donné. Donc, un principe, une cause d'unité dans la diversité des déterminations et dans la diversité des états. Il y a donc deux principes, deux causes propres de l'être. Vous voyez ce qu'on appellera la substance, en grec, ousia, principe et cause propre selon la forme de ce qui est. La substance, c'est ce qui est premier dans ce qui est, en tant qu'il est, dans l'ordre des déterminations. Donc, cause de votre unité substantielle d'être dans la diversité des déterminations. Vous êtes un être unique et distinct des autres. La substance est source d'autonomie. Et vous le reverrez, je crois que c'est surtout ça qui peut vous être important. Hein. La substance va faire comprendre ce que c'est que l'autonomie. Et vous le verrez, à propos du problème de la personne, l'autonomie est la première dimension de la personne. Vous êtes un être unique en soi-même et distinct des autres, dans l'ordre de l'être. Oui. Toutes les autonomies d'un autre ordre sont relatives par rapport à celle-là. Oui, je peux dépendre de vous dans beaucoup de domaines, mais dans l'ordre de l'être, je ne dépends pas de vous. Oui, c'est très important de saisir ça. Oui. Par exemple, tout de suite, il y a une relation entre nous. Je vous fais un cours. Donc, vous dépendez de moi. Si je ne parle pas, il n'y a pas de cours. Oui. Je pourrais m'asseoir, j'aurais pu venir tout à l'heure à 3h, je dirais, écoutez, maintenant, je suis fatigué. Je propose que nous fassions une heure à contempler philosophiquement. Donc, je m'assieds au bureau et une heure de silence. Je n'agis pas sur vous. Oui, je peux peut-être agir par la présence. Et puis, je vous surveille. Je dis, celui qui bouge, je le fusille. Donc, je peux dire ça. Oui, c'est une manière d'agir sur quelqu'un. J'établis une relation. Oui. De domination. Mais quand vous écoutez un cours, vous agissez sur moi de la même manière, je suis aussi passif. Parce que je subis 90 perdus, ce qui n'est pas drôle du tout, vous voyez. Donc, quand j'enseigne, je suis actif, vous êtes passif. Il y a une relation. Et réciproquement, vous agissez par votre écoute, et moi je subis ça. C'est pour ça que quand on fait un cours, on a toujours un trac énorme. Parce qu'on subit la qualité d'un public. Et il suffit de quelqu'un qui n'écoute pas pour vous empêcher de parler, c'est évident ça. Voyez. Ça vous gêne. Et donc on est passif, c'est une relation ça. Mais dans l'ordre de l'être substantiel, ça ne fait rien du tout, voyez. Je peux vous dire, écoutez, hein, je vais me mettre en colère, mais très bien, c'est secondaire. Je ne peux pas vous annihiler. Peut-être que de temps en temps je pourrais le souhaiter, mais je ne peux pas, voyez. Et vous ne dépendez pas de moi dans votre être substantiel. Votre je suis est unique. Ça, c'est la découverte de la substance qui nous permet de découvrir, voyez. Et ça va très très loin, voyez. Hein. Parce que cette relation que je décris tout de suite, elle est encore assez superficielle. Enfin, elle est profonde parce que c'est la recherche de la vérité. Mais vous voyez, par rapport à une relation d'amitié personnelle, la relation d'amitié personnelle, c'est la plus grande dépendance interpersonnelle entre deux personnes. Eh bien, si profondément que vous aimiez quelqu'un, il restera toujours autre que vous dans l'ordre de l'être. Votre amour reste intentionnel et vous ne serez jamais un dans l'être avec cette personne. Vous voyez, c'est très, très mystérieux, ça. Pourquoi ? Vous voyez, là, je pose le pourquoi. Vous voyez, je peux décrire ça. Jugement d'existence, ceci est, qui implique cet absolu dans l'ordre de l'être. Ceci est et est autre que moi. Pourquoi est-il autre alors que pourtant je peux avoir une telle unité avec lui dans l'ordre de l'amour? Quelle est la cause de cette unité d'être dans la diversité des déterminations qui fait que c'est tel être unique? Vous voyez? C'est très très important de saisir ça. La substance, principe et cause selon la forme de ce qui est. Et donc quand vous verrez ça, hein, par rapport à la personne, la substance est source de l'autonomie substantielle de la personne. La personne, c'est d'abord un être qui implique une autonomie dans l'ordre de l'être, qui provient de la substance, qui est notre âme spirituelle. Et puis, second aspect, je découvre l'être en acte comme cause finale de ce qui est, qui explique le « en vue de quoi ce qui est ». C'est-à-dire, qu'est-ce que l'être dans sa perfection? Qu'est-ce que l'être dans ce qu'il a d'ultime? Pourquoi peut-il y avoir des états différents dans la réalité existante, ordonnés l'un par rapport à l'autre? Je suis capable d'aimer, j'aime. Et quand j'aime, je suis relatif à un bien que j'aime. Et alors, l'être en acte, c'est la cause finale. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce matin, que la découverte de la finalité au point de vue métaphysique est d'une importance essentielle. Découvrir ce qui est ultime dans l'ordre de l'être, c'est capital pour saisir ce que c'est que l'esprit dans la personne. Pourquoi ? Parce que l'être en acte va impliquer 5 grandes explicitations. Là, c'est un résumé que je ne fais, je ne peux pas faire plus. Ça présuppose beaucoup de réflexion. Donc, c'est juste pour vous donner un canevas. L'être en acte va impliquer, premièrement, l'essai, l'être. Quand je dis « ceci est », ça implique que j'existe en acte. Et le simple fait que j'existe, je touche quelque chose d'ultime, qui est un absolu. Deuxièmement, le vrai. Le vrai, c'est ce qui est capable de mesurer ma connaissance. Donc mon intelligence est en puissance au vrai. Dans son jugement, mon intelligence est relative à ce qui est comme vrai. Ah, on touche une fameuse distinction qui est très importante sur ce qu'on appelle la distinction entre la vérité formelle et le vrai ontologique. Ça, c'est une expression de la scolastique. La vérité, c'est d'abord la qualité de mon intelligence. Je suis vrai si ce que je pense correspond à la réalité. On a vu ça hier. Mais d'autre part, ce qui est, en tant qu'il est vrai, en tant qu'il est ce qui mesure et actue mon jugement. Donc l'être même comme tel est acte pour mon esprit. Il est vrai. Ensuite, le bien. Le bien, c'est une explicitation de l'être en acte. Le bien, acte de ma volonté. Ce qui suscite l'amour. Qu'est-ce que le bien ? Le bien, c'est ce qui attire à soi. C'est ce qui suscite l'amour. Donc ma volonté, c'est une capacité d'aimer d'un amour spirituel, un bien spirituel. Et j'ai un regard métaphysique sur le bien à la lumière de l'être. Qu'est-ce que le bien ? C'est ce qui est capable de susciter un amour. Ce qui est actuant la volonté. Puis ensuite, pour le vivant est en acte, il est parfait dans ses opérations vitales. Et en dernier lieu, le monde physique est en acte, il est parfait dans le mouvement, dans le devenir. Il y a donc 5 grandes explications de l'être en acte. L'essai, le vrai, le bien, l'opération vitale, le devenir. Et on reprend donc, vous voyez toute la philosophie ici. L'essai, c'est par rapport à la substance. Le vrai et le bien, c'est les rapports de l'être et de l'esprit. L'opération vitale, c'est les rapports de l'être et de la vie. Le mouvement, c'est les rapports de l'être et du devenir. L'être en acte, cause finale de ce qui est, donne un nouveau regard sur toute la philosophie. Oui, les rapports entre l'être et l'esprit, entre l'être et la vie, entre l'être et le devenir. Oui, je ne vous donne ici qu'une piste, parce que c'est là-dessus on pourrait faire 2 ans de cours. Donc, je dis avis aux amateurs. Et le premier qui a mis ça en lumière, c'est Aristote, dans la métaphysique au livre Theta. Et pour lui, c'est une chose capitale, parce que on ne peut découvrir le problème de l'existence de Dieu que par la cause finale au niveau de l'être. Et ça, on ne peut pas comprendre pourquoi la scolastique a pu dire que c'était par la cause efficiente. Parce qu'Aristote dit textuellement que c'est par la cause finale qu'on découvre Dieu. Il dit « Dieu est premier moteur immobile, or c'est ainsi que meuvent le désirable et l'intelligible. » Le désirable, c'est le bien, l'intelligible, c'est le vrai. Je découvre donc Dieu comme vérité première, comme bonté substantielle. Oui, celui qui attire tout amour à lui, celui qui attire toute recherche de vérité à lui. Et dès que je saisis un petit peu la vérité, ultimement cela va me conduire jusqu'à la vérité première, en qui être et vérité ne sont qu'un. Dès que je saisis un tout petit peu ce que c'est que l'amour d'un bien spirituel d'une personne, cela me conduit ultimement à la bonté première, substantielle, qui est Dieu, en qui être et amour ne sont qu'un. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire en philosophie, tout amour vient de Dieu. Tout amour véritable d'un bien spirituel me conduit ultimement par la cause finale jusqu'à Dieu. Toute vérité authentique, toute découverte de ce qui est vrai, me conduit ultimement jusqu'à l'être en qui être et vérité ne sont qu'un. L'être qui peut dire en toute vérité, je suis la vérité. C'est-à-dire que moi je peux dire, je suis et je suis vrai. Je suis et j'aime. Je suis et je suis vivant. Je suis et je suis dans le devenir. Et donc, vous verrez comment ces 5 modalités de l'être en acte nous éclairent sur les dimensions de la personne humaine. La personne humaine, c'est un être qui implique l'autonomie, qui cherche la vérité, qui peut se finaliser par un amour d'amitié, qui est autonome dans sa vie, qui assume son corps, qui est dans le devenir. Et par là, elle peut s'ouvrir ultimement à la découverte de l'existence de Dieu qui est l'être premier. Vous voyez donc, cette découverte hein, que je vous donne de manière très très rapide, hein, cette analyse des principes propres de l'être est essentielle pour saisir la structure d'une pensée métaphysique. Et le fruit, je dirais, vous voyez, le fruit délicieux de cette analyse, hein, parce que l'analyse elle est laborieuse, c'est plutôt le pain sec, vous voyez. Hein. Le pain sec métaphysique, c'est les inductions. Bien évident que c'est très très difficile. Hein. Il faut quitter tout l'aspect sensible pour saisir quelque chose que seule l'intelligence atteint. C'est très très difficile. Pourquoi faire cet effort ? Pour pouvoir parler en profondeur de la personne humaine et s'élever jusqu'à Dieu. Alors là, c'est merveilleux. Mais il faut avoir fait l'effort avant, oui. Alors, je dis ça pour vous donner du courage, parce que ce n'est pas dans une session de 2 jours qu'on peut faire ça. Mais au moins qu'on voit hein, l'intérêt métaphysique, qu'on comprenne l'importance du jugement d'existence, l'éveil de l'interrogation. Puis petit à petit, on entre dans cette recherche métaphysique. Alors je vous laisse, puis vous continuerez avec le père Philippe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.